Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.
Bonjour à tous, bienvenue sur CDI Podcast dans ce tout nouveau rendez-vous intitulé le Zoom Secteur. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis ravi de vous proposer ce nouveau format. Si vous êtes des fidèles lecteurs de l'officiel de la franchise, la rubrique secteur ne vous est pas inconnue. Tous les mois dans notre magazine, nous analysons et nous décryptons un secteur économique que nous passons au crible. Pour ce premier numéro dédié à la grande distribution et à la proximité, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gutzmann, consultant en grande consommation et agroalimentaire.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Choisissez le bon marché pour vous lancer.
Bonjour Philippe, merci d'être à mes côtés.
Bonjour.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous l'avons vu durant les deux premiers confinements, le secteur alimentaire a su performer. Plus que jamais, la proximité aura été au cœur des préoccupations de nos concitoyens qui ont, est-ce provisoire, délaissé les hypermarchés. Un point tout d'abord, Philippe, sur ce que pèse la proximité, si on peut en avoir une idée.
D'abord, avant même de parler de ce que ça pèse, il faut essayer de définir ce que c'est. Parce que je pense que le grand public, en tout cas, raisonne la proximité par rapport à ce que ça signifie, c'est-à-dire un magasin qui est proche de chez soi. Et en soi, ça ne renvoie pas à des formats ou à des tailles de magasins. Vous venez de parler d'hypermarché par rapport à la proximité. Or, dans la nomenclature officielle et celle des panélistes, ça a une signification. En fait, la proximité, si je prends un terme qu'on utilise un peu moins, ce sont les supérettes, ce sont des magasins de moins de 1000 m², de petite taille. Après, vous avez les supermarchés qui vont monter jusqu'à normalement 2500, mais la nomenclature aujourd'hui les fait évoluer plutôt vers 4000 m². Et les hypermarchés après, les très grands hypermarchés qui vont largement dépasser les 10 000. Donc on parle des magasins de petite taille, indépendamment d'ailleurs du fait qu'ils soient proches ou pas des clients qui les fréquentent, mais on appelle ça la proximité. Alors ça pèse quoi la proximité ? C'est assez intéressant parce qu'évidemment comme ce sont des magasins de petite taille, il y a une différence de poids entre ce que ça représente en chiffre d'affaires et ce que ça représente dans le tissu commercial national. Parce que dans le tissu commercial national, la proximité, c'est extrêmement lourd. C'est plus de 7000 magasins en France sur un total qui est de près de 20 000. Donc en fait, la proximité, c'est presque 40% des points de vente, des points de contact que les clients peuvent fréquenter. Mais pour autant, ces 40% de nombre de magasins, ça ne représente en gros que 5% des mètres carrés commerciaux en France et à peu près 8% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, il y a un écart extrêmement fort entre les notions de surface, de nombre de magasins et de chiffre d'affaires. Précision technique sur le chiffre d'affaires, je parle là du chiffre d'affaires, c'est celui qu'on utilise en général, de ce qu'on appelle les PGC, les produits de grande consommation. Donc dans ce calcul, il n'y a pas toute la partie des produits frais, mais vous avez l'épicerie, les boissons, les yaourts, la parfumerie et la droguerie. Voilà pour les principaux chiffres.
D'accord. Vous l'avez défini, cette notion de proximité, et on a le sentiment que les possibilités de développement semblent sans limite. Est-ce le cas ?
Non, d'abord, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et encore une fois, avant de répondre plus précisément à votre question, il faut distinguer, d'ailleurs les panélistes le font, il faut distinguer ce qu'il y a à l'intérieur de la proximité. Je dirais un hypermarché, on voit à peu près. La proximité, en fait, elle a des formes extrêmement différentes. Les deux grandes formes qu'on va regarder, c'est classiquement ce qu'on va appeler la proximité urbaine, et de l'autre côté, la proximité rurale. On voit bien tous que ça ne représente pas la même chose entre un Coxy Market ou dans une bourgade rurale, ou le magasin, là on est en plein cœur de Paris, qui est en pied de porte et qui va servir des habitants qui habitent dans des appartements. On voit bien que ce n'est pas le même usage, ce n'est pas la même fréquentation, ce n'est d'ailleurs même pas les mêmes horaires de fréquentation, enfin tout change. Donc on a ces deux dimensions-là. Là encore, elles sont, le poids de ces circuits est très différent sur le territoire, puisque vous avez Je parlais tout à l'heure d'à peu près 8% de parts de marché, c'est un petit peu plus. 6 points sont représentés par la proximité urbaine. Donc la proximité, en fait, elle est essentiellement urbaine. Et vous avez un peu plus de 2 points qui est la proximité rurale. Donc une pondération de la proximité qui est plus urbaine. Ça va être très important par rapport à ce qu'on va évoquer sur le développement. Je n'ai pas oublié votre question. Le développement est aussi assez différent puisque on aura observé, notamment sur l'année écoulée avec ce qu'on a connu du confinement, en fait une dynamique plus forte dans la proximité rurale que par rapport à la proximité urbaine. En fait, tout ça, j'oubliais, on pourrait rajouter une forme de proximité qui en fait est assez rurale, mais qui est d'ailleurs en extrême difficulté en ce moment, il faut penser à eux, c'est, je qualifierais, la proximité touristique. Quand on va dans des stations de ski qui sont évidemment fermées en ce moment, ce sont des modèles de proximité qui sont en plus extrêmement saisonniers. La dynamique de développement, pour répondre à votre question, est effectivement très différente. Il faut prendre plusieurs points. Le premier point, c'est quelle est l'appétence des consommateurs au circuit de proximité. Est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle évolue? Et ensuite, voir les effets que la crise du Covid aura sur le commerce en général et sur ce circuit en particulier. En fait, le circuit de proximité, celui dont on parle là, il a connu une très forte évolution sur les années, disons en gros 2014-2019. Je vais m'arrêter avant le Covid. Une évolution très significative, mais qui est portée par plusieurs facteurs. Le premier, c'est un effet de parc. Il y a eu une augmentation assez conséquente du nombre de magasins de proximité. Et c'est logique parce que dans l'évolution longue du commerce moderne, on a d'abord eu des très grandes surfaces, les grands hypermarchés qui se sont développés massivement dans les années 70-80, puis une vague de supermarchés. Et petit à petit, le tissu commercial se redensifie et on a de plus en plus de magasins. Donc c'est assez logique. S'ajoute à ça quelque chose qui procède là du travail des distributeurs, il y a eu sur les dernières années un effort très conséquent de modernisation des concepts. Vous le voyez bien, on se souvient tous entre les magasins, disons les supérettes qu'on fréquentait il y a 10 ans, il y a peut-être même 30 ans, et ce qu'on fréquente aujourd'hui, on perçoit bien que le parc a été considérablement modernisé. Au reste, beaucoup d'enseignes ont disparu, il y a eu beaucoup de concentration, on en parlera peut-être, avec des enseignes qui sont plus typées, qui sont plus professionnelles en fait. Et donc tout ça a amené une croissance intéressante sur les dernières années. Maintenant, ce qu'on vit avec le Covid est important parce que d'abord on a eu le confinement l'année dernière, le premier confinement, celui qui était le plus sévère, où on a connu à ce moment-là une explosion du chiffre d'affaires de la proximité. Et donc, vous avez eu beaucoup de commentateurs à ce moment-là qui ont dit « ça y est, les Français, le retour à la proximité, les Français aiment la proximité, etc. » On a oublié un peu vite que les Français étaient en contrainte, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de se déplacer, ou pas très loin. Donc mécaniquement, il fallait bien qu'ils aillent, non pas dans la proximité au sens où on en parle ici, mais dans les magasins les plus proches de chez eux. C'était parfois un hyper, parfois un super, parfois de la proximité, parfois un magasin bio. Mais vous voyez bien que quand vous avez sur le territoire national plus de 7000 magasins dits de proximité, mécaniquement, ce sont les plus proches. Et donc, ils ont bénéficié d'un effet de parc extrêmement puissant, ce qui a amené une très forte croissance de ces circuits, qui a continué tout au long de l'année une dynamique de croissance importante, bien plus faible qu'au moment du premier confinement. Il y a eu des soubresauts ensuite avec le couvre-feu, avec le deuxième confinement. Mais qui est lié à la fois aux contraintes qu'on a quand même toujours, plus ou moins, on les a bien aujourd'hui, et également à des phénomènes, pour beaucoup de clients, de peur qui sont restés, ils préféraient aller pas trop loin, etc. Donc on a eu cet effet booster sur la proximité en général, particulièrement en zone rurale, ou précisément entre le magasin ou le Carrefour Market ou le Vival de son village, et l'hypermarché qui était peut-être à 25 km, entre la contrainte d'une heure de déplacement ou le couvre-feu, on voit bien que les arbitrages se font d'abord sur le critère de kilomètre. Il faut rappeler que les deux premiers critères de choix d'un magasin sont évidemment le prix et la distance. Et donc le confinement a fait primer la distance. Le deuxième élément qui a joué fortement sur la proximité cette année, et là plutôt dans l'autre sens, mais pour la proximité urbaine, c'est la digitalisation et qui a amené derrière le télétravail. Et le télétravail dont on continue aujourd'hui à nous dire qu'il faut le maintenir et le maintenir fort. Ce qui me fait penser que quand on va sortir de la crise, on en sortira bien un jour, le niveau de télétravail en France restera très supérieur à ce qu'il était en 2019. Alors, comme sans doute nos auditeurs, et moi, le télétravail, bon, c'est bien pratique, mais j'en ai un peu assez aussi. Donc j'en ferai moins demain que je n'en fais aujourd'hui. Il n'empêche que en 2022, j'en ferai quand même beaucoup plus que j'en faisais en 2019. Et donc, le niveau de télétravail va se développer. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un impact extrêmement lourd pour la proximité urbaine, et particulièrement celle qui est dans les cœurs de ville. Alors, je vais prendre un exemple parisien parce que il est plus marquant encore. Je me remets au premier confinement. Dans les premières semaines du premier confinement, et on l'a vu toute l'année, hein, la fermeture des restaurants a amené une croissance très forte de la grande distribution. Les télés s'en sont fait l'écho tout au long de l'année, je vais pas le détailler. Mais il y a quatre arrondissements de Paris. Les arrondissements, le premier, je vous le dis de mémoire, je crois que c'est le premier, le sixième, le huitième et le neuvième, qui sur ces premiers jours de confinement, alors même que les restaurants étaient fermés, ont vu leur commerce, non pas que de proximité, mais au sens, encore une fois, de la nomenclature, les supermarchés aussi, mais ont vu les commerces alimentaires plonger en négatif, et parfois de façon forte. Pourquoi ? Parce que les consommateurs qui étaient en proximité, notamment pour acheter du snacking à midi, un sandwich, une salade, etc., dans un Carrefour City ou dans tel autre magasin, ces consommateurs n'étaient plus là, puisque désormais ils travaillent chez eux. Et donc on a eu une forme de désertification d'un certain nombre de cœurs de ville par l'effet du télétravail. Ça, c'est un handicap très fort sur les circuits de proxy urbaine, parce que ces magasins ont ce qu'on appelle un taux d'effort par rapport à leur loyer, qui reste élevé, parce que les cœurs de ville sont chers, et que donc une baisse de chiffre d'affaires, même minime, est quelque chose qui pénalise fortement leur compte d'exploitation. Donc en matière de développement, si vous voulez, vous avez quelque chose qui va être, à mon avis, très directement impacté par le phénomène télétravail et sur sa durabilité. Moi, je suis plutôt optimiste, si vous voulez, sur les circuits de proximité rurale, parce que, toujours pareil, cette densification des circuits de distribution va continuer à se faire. Ça risque d'être plus difficile dans la proximité urbaine, dans ce qu'on appelle les zones denses. D'autant que se rajoutent à ça des formes de commerce digital. Alors évidemment, le e-commerce classique qu'on connaît, mais également les phénomènes des drives piétons qui arrivent aujourd'hui et qui, en zone urbaine, peuvent être des vrais concurrents à la proximité, en amenant une offre qui est à la fois plus large et souvent moins chère.
Ok, c'est très intéressant. Mais est-ce que vous pouvez nous parler également de l'ADN des différentes enseignes en matière de proximité? Comment est-ce qu'elles se démarquent? Est-ce qu'elles ont des spécificités?
Elles ont évidemment chacune leur style, mais qui est en réalité assez corrélé à ce que je viens d'exprimer. C'est-à-dire que vous avez des enseignes qui sont positionnées plus en ruralité, d'autres plus en tissu urbain, et donc l'offre, évidemment, n'est pas tout à fait la même. On comprend bien que quand on est dans une ville, dans une zone dense, on a rarement un énorme congélateur bahut. Donc les achats éventuellement de produits surgelés vont être des plats cuisinés pour une personne. Si on est dans une zone rurale, on a besoin d'une offre différente. Donc vous avez des typicités différentes de ce point de vue-là. Ce qu'il faut, au moment de cette question, je pense que ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est derrière les enseignes, c'est le poids des groupes. En fait, en France, il y a énormément d'enseignes de proximité. Il y en a une quarantaine à peu près. Alors avec des choses qui sont parfois très épiphénoménales, des enseignes qui sont très régionalisées finalement. Mais au bout, on a en réalité deux grands groupes qui pèsent en proximité, que sont le groupe Carrefour et le groupe Casino. Et en fait, c'est intéressant parce que Casino, ça représente, c'est celui qui pèse le plus lourd, hein. Casino, c'est 40% des mètres carrés de proximité. Mais pas sous la marque Casino. Si vous avez derrière le Casino des magasins de proximité qui s'appellent Casino, mais celui qui est le plus déployé sur le territoire, c'est la marque Vival. qu'on voit fort peu dans les zones urbaines, mais qui est par contre très présente dans des zones rurales. Et Vival, on en a presque 1400 en France. Vous voyez, c'est un chiffre considérable. C'est-à-dire qu'en nombre de magasins, Vival, vous en avez à peu près 5 fois plus que d'hypermarché Carrefour. Vous voyez ? Donc, et là, vous avez une typicité qui est une typicité de magasin très rurale. Vous avez une marque comme Carrefour, c'est amusant. Carrefour utilise toujours sa marque Carrefour, mais vous avez Carrefour City. Comme son nom l'indique, on est dans la proximité urbaine. Et vous avez Carrefour Express, qui est un autre positionnement. Vous avez Carrefour Contact, qui est encore un autre positionnement. Et les mots disent bien quel est le rôle de chacun des magasins. Voilà, donc vous avez des enseignes très diverses.
En matière de la crise qu'on continue à vivre, qu'est-ce que la pandémie en matière de proximité a permis d'accélérer ? Est-ce que vous sentez de nouvelles évolutions du marché et quelles sont aujourd'hui les attentes des consommateurs ?
En fait, j'ai coutume moi de dire que la crise en elle-même n'a pas amené d'évolution. Parce qu'en fait, elle n'a pas amené les deux choses fondamentales qui font évoluer la consommation, que sont une rupture de la structure démographique, structure des ménages et autres, puisque en réalité, il n'y en a pas, malgré les drames humains, évidemment, des décès qu'on a pu connaître, mais qui ne changent pas la structure des ménages profondément. Et il n'y a pas d'innovation, au sens d'innovation de rupture, de choses qui arrivent et qui changent tout. En revanche, cette crise, elle a considérablement accéléré l'adoption d'innovation par les consommateurs, et notamment le digital. C'est-à-dire, on sait très bien, bon, la presse, le gouvernement en parle beaucoup, les commerces en France étaient relativement peu digitalisés. Là, ils sont obligés de faire un saut de digitalisation énorme. Dans le monde de la distribution, c'était déjà très présent, puisque au-delà des grands pure players qu'on connaît tous, comme Amazon, les grandes enseignes avaient déjà développé des drives, mais ces drives, par exemple, étaient très localisés ou liés, ceux qui performaient, aux hypermarchés, chez Leclerc, chez Carrefour, chez Auchan notamment. Ils se sont développés très massivement depuis 2-3 ans dans le tissu des supermarchés, Inter, Système U, en nombre, mais maintenant on va même jusqu'à la proximité qui se digitalise. Donc là, il y a une évolution qui est importante. Moi, ce qui m'a frappé cette année, au-delà de la digitalisation, mais dont on a beaucoup parlé, c'est un phénomène qui a trait justement au terme de proximité. Et qui, là encore, est une évolution lente qu'on sent depuis une douzaine ou une quinzaine d'années. Vous avez souvent entendu dire, pour la distribution, mais comme pour les produits, comme pour plein de dimensions de la vie, qu'il y avait un retour à la proximité. Les gens veulent du made in France, voudraient des produits locaux, aiment les commerces de proximité, tout ça on l'entend. Et on pourrait donc faire le parallèle avec la proximité dont on parle aujourd'hui. En fait, je pense que le terme n'est pas tout à fait approprié et justement, il va permettre d'enrichir la proximité de demain. Enfin, je le crois et je le souhaite. Pour moi, c'est la dimension relationnelle. En fait, quand on parle de proximité, quand on parle de produits, de Made in France, etc., moi, je ne crois pas beaucoup au-delà de la conscience de l'emploi, etc., qui s'est développée, mais je ne crois pas beaucoup que nos compatriotes soient dans une logique de repli sur soi, de vouloir revenir un peu dans leur petit village, etc. Parce que, par ailleurs, on observe encore l'année dernière que, quand vous regardez un peu la liste des plats livrés, et où les ventes des produits du monde dans les magasins se sont jamais aussi bien portées. Donc on a des consommateurs qui consomment de plus en plus international et mondial, et en même temps, il y a un retour à la proximité. C'est assez étonnant. En fait, je crois beaucoup qu'on a un besoin d'incarnation, on a un besoin de relation. Et ce que les clients, ce que les consommateurs recherchent en achetant, par exemple, des produits locaux, des produits de PME, c'est des produits qui leur apparaissent vrais, sincères. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, je dis que c'est le sentiment des gens. De même qu'il y a eu l'année dernière un boom énorme des commerces de bouche traditionnels, les bouchers, les poissonniers, etc., ont connu une très belle année. Alors évidemment, les restaurants étaient fermés, mais globalement, on aime retrouver le contact humain. Vous savez, il y a une vieille expression française, je l'utilise souvent parce qu'elle m'amuse, ça fait un côté un peu suranné, mais qui dit de quelqu'un qui a une conversation qui est agréable et une relation agréable, on dit qu'il est d'un commerce agréable. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Parce que finalement, on parle là de commerce et de distribution. C'est pas la même chose. La distribution, il s'agit d'acheminer des produits vers un consommateur. Le commerce, c'est la relation. Et quand on parle de commerce de proximité, je pense que l'enjeu de demain, c'est pas tellement d'être proche en kilomètres, même si évidemment c'est une nécessité, mais c'est d'être proche relationnellement. Et ça, c'est un élément très fort. Quand vous êtes dans un très grand magasin, historiquement, vous aviez une relation très anonymisée. Et ces hypermarchés essayent d'avancer là-dessus avec plutôt des belles réussites, mais c'est pas simple. Quand vous êtes sur de la proximité, au sens où on l'entend là aujourd'hui, c'est superette. Il y a très longtemps, on connaissait le patron, puisque c'était des petites boutiques familiales. Puis c'est devenu des chaînes, avec souvent un personnel qui tourne, et la relation, faut le dire, restait impersonnelle, ou est devenue impersonnelle. Et là, il y a un défi. Parce que si tous les jours, je vais dans mon petit commerce de proximité, et que je rencontre des gens qui me reconnaissent, qui connaissent mes goûts, mes souhaits, avec qui j'ai cette relation dont on a besoin dans un monde digitalisé, virtualisé, confiné même, là, il y a un levier pour la proximité qui me semble extrêmement important sur le rôle du commerçant, puisqu'on s'adresse, je crois, aujourd'hui à eux, de n'être pas qu'un distributeur, mais d'être un vrai commerçant dans cette relation.
En revanche, on a quand même le sentiment que dans cette proximité, que la simple vente de produits ne suffit plus. Les enseignes doivent apparemment sortir de leur zone de confort. Est-ce le cas ?
Ah oui, complètement. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne absolument. C'est que vendre un produit, c'est justement être un distributeur, ce que je disais à l'instant. On achemine un produit. Soyons honnêtes, même si ce n'est pas tout à fait encore le cas, mais acheminer une offre la plus large, l'offre la plus large au prix le moins cher, il y a fort à parier que le pur digital avec la livraison à domicile sera extrêmement efficace, ou avec différentes méthodes. Donc le sujet, c'est évidemment la relation, mais c'est effectivement ce supplément de service que ne peut pas amener. Si demain, je veux, même en alimentaire, me faire livrer de quoi faire une raclette ce soir, il n'empêche que j'ai besoin d'avoir un four à raclette. C'est un exemple très trivial, mais j'ai parlé de la proximité de vacances en montagne, ils souffrent, et c'est un exemple qu'ils font depuis toujours. Quand vous êtes en montagne, que vous voulez faire une raclette avec des amis, eh bien le commerce de proximité, le Vival, le Carrefour Montagne ou autre, ils vous prêtent l'appareil raclette. Ça paraît tout bête ce que je dis, ça existe depuis toujours, sauf qu'il faudrait le systématiser pour dire que l'important, c'est pas d'acheter du fromage. C'est de réussir sa raclette le soir avec ses copains, avec sa famille. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte en plus de la simple distribution des produits ? Et c'est non seulement une nécessité pour le consommateur, mais c'est ce qui va permettre la différence et l'utilité. L'utilité économique, mais l'utilité sociale d'un commerce par rapport à des systèmes de livraison, par rapport à des systèmes de distribution qui sont efficaces. Donc oui, il y a un champ énorme sur le sujet des services.
Vous avez constaté que les enseignes ont évolué là-dessus ?
Alors oui, elles essayent. C'est très difficile parce que les métiers des services ne sont pas historiquement les métiers des distributeurs. Vous savez, un distributeur dans l'histoire, c'est quelqu'un qui achète des produits à des industriels pour les mettre en rayon et les revendre. Quand vous vous mettez à faire des services, tout change. D'abord, il faut imaginer les services, il faut les concevoir. Le stock de matériel pour faire du service, ben, il vous appartient, vous devez le gérer, vous devez le piloter. Donc, c'est un modèle qui est tout à fait différent. Alors, quand on est sur l'exemple relativement simple de la raclette que je viens de donner, ça va. Et dans une petite boutique, le commerçant va pouvoir s'en occuper et le gérer de façon assez facile, parce que ça ne prend pas une très grande ampleur. Mais si on veut développer ça d'une façon plus puissante, ça suppose d'autres techniques, ça suppose de la traçabilité, ça suppose de regarder comment les clients s'occupent de leurs produits. Enfin, c'est vraiment un métier assez différent qui va nécessiter au niveau des groupes de distribution qui accompagnent ces circuits de distribution largement franchisée, ça va supposer qu'ils travaillent la conception de leur offre et tout ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire comment ils organisent ça, comment ils tarifient ça, comment ils l'expliquent et le vendent aux clients.
Entendu. Je vous remercie Philippe d'avoir été parmi nous pour cette première émission du Zoom secteur consacré à la grande distribution et à la proximité. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt. Merci Philippe.
Merci à vous.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.